France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les midis de culture. Prenez place pour 1h30 d'actualité et de culture à nos côtés. Dès 12h50, je recevrai l'actrice Nina Meurice. Elle interprète Marie Madec dans la série 37 secondes qui a reçu le prix de la meilleure série française au festival Sérimania il y a quelques jours. Elle est à voir actuellement sur Arte. Mais d'abord, je vous propose une nouvelle écoute d'une dispute autour de la littérature étrangère. Au menu Orbital de Samantha Harvey, ouvrage paru chez Flammarion, qui nous propose un voyage en apesanteur dans la Station Spatiale Internationale, et le futur d'Adam Sirwell aux éditions de l'Olivier, roman ovni mélange de science-fiction et de contes philosophiques. Et j'accueille pour ce débat nos deux critiques du jour prêts à en découdre, j'imagine, je vois ça dans leurs yeux. Lucille Comeau, on vous écoute tous les matins pour votre regard culturel sur France Culture, bonjour.
Bonjour Marie.
Et Joanne Ferber, vous êtes éditeur, essayiste et critique littéraire, bienvenue et bonjour à tous les deux.
Bonjour Marie.
On commence avec Orbital de Samantha Harvey, lauréate du Booker Prize 2024 pour ce roman traduit en français par Claro. Nous voilà au cœur de la Station Spatiale Internationale, 6 astronautes s'acquittent de leur tâche quotidienne en s'interrogeant sur le sens de la vie. C'est un roman contemplatif. Le lecteur observe avec eux la Terre vue de l'espace et fait une expérience inédite du temps. Alors vous connaissez la règle du jeu, nous commençons par un premier avis rapide. Lucille Comeau, êtes-vous partie en orbite avec ce texte-là ?
Je ne sais pas si on peut vraiment partir en orbite avec ce texte-là, qui est un texte de très bonne facture mais qui résiste précisément pour cette raison-là.
Joanne, pareil, même exercice.
Oui, et ben moi je trouve que cette famille flottante, au départ, quand j'ai commencé le livre, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit ça va être une espèce de fable un peu grandiloquente sur l'espace. Et au fur et à mesure de la lecture, je l'ai trouvée de plus en plus fine et ça m'a et avec quelques points paradoxaux qui m'ont assez intéressé.
En orbite autour de la Terre, dans leur vaisseau spatial, ils sont si proches et si seuls que même leurs pensées, leurs mythologies intimes parfois se rejoignent. Il leur arrive de faire les mêmes rêves, des rêves de fractales, de sphères bleues, de visages familiers perdus dans l'obscurité, et du noir intense et dynamique de l'espace qui terrasse leur sens. L'espace nu est une panthère, sauvage et primitive. Ils rêvent qu'elle rôde dans leur habitacle. Ils sont suspendus dans leur sac de couchage. À quelques centimètres d'eux, derrière une peau métallique, l'univers se déploie en simples éternités. Leur sommeil s'affaiblit alors, une aube lointaine point et leurs ordinateurs pulsent les premiers messages silencieux d'une nouvelle journée. La station, en éveil perpétuel, vibre de tous ses filtres et ventilateurs.
Merci à Louis Costard pour cette lecture. Lucille, peut-être plus généralement, avant d'entrer dans le détail avec vous, est-ce que la littérature est à même de parler du cosmos ? Le cinéma, lui, s'est longtemps penché sur ce sujet-là, mais les romans, hors science-fiction, un peu moins, est-ce que celui-ci y parvient ?
Alors, je suis vraiment très 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 mauvaise en l'occurrence, parce que moi, je déteste l'espace. J'ai peur de l'espace. Toute évocation de planètes, d'étoiles, je vous parle même pas d'infini, ça m'angoisse profondément.
Ça vous donne le vertige ?
Je me tiens, ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai le vertige. Donc, je me tiens très, très à distance de toutes ces fictions spatiales. Au cinéma, c'est plus compliqué de se tenir à distance qu'en effet en littérature, parce que le cinéma, on est rempli. Et puis, il y a toutes sortes de films très différents sur les étoiles. Hein. Et moi, j'oscille un peu entre deux options. Ou ça m'ennuie, mais vraiment profondément, ou ça m'angoisse très, très fort. Donc, bon.
Et là, dans le roman, alors, vous
là,
êtes ennuyée
ou... Justement pas. Je me suis un petit peu ennuyée, disons, vers la fin, mais je trouve que c'est plutôt très réussi. J'ai d'ailleurs été très surprise par ma propre réaction à la lecture des premières pages. Déjà, pour une raison très simple, c'est que je pense que le roman est très bien documenté. D'ailleurs, Samantha Harvey remercie à la fin, notamment la NASA et l'Agence européenne de l'espace. Et on sent qu'elle a vraiment travaillé, enfin, il y a vraiment un travail sur ce que c'est qu'être dans l'espace. Et précisément, au-delà de la question contemplative que vous décriviez tout à l'heure, donc au-delà de ce que c'est philosophiquement qu'être un humain fragile dans le grand espace. Non, ce qui l'intéresse, elle aussi, c'est le concret, puisqu'elle parle d'une seule journée. Et donc, dans une journée, qu'est-ce qu'on fait quand on est un humain dans l'espace, dans cette espèce de boîte volante où il y a très très peu d'espace, où la gravité ne fonctionne pas, où les sinus sont complètement bouchés parce qu'on peut pas respirer exactement de la même manière, où le goût des aliments disparaît, où on donnerait tout pour croquer quelque chose parce que le sens du croquant disparaît. Enfin, des choses hyper concrètes sur le corps, sur les petits mots et les grands mots du corps dans l'espace. Ça, c'est très intéressant. Et en effet, c'est assez, c'est comme ça, disons, que la chose me saisit, que l'étrangeté de l'expérience me saisit. C'est vraiment par le corps, les mots techniques, la description des espaces, ces sacs de couchage dans lesquels ils se rangent à la fin de la journée, en respectant ce fameux temps. Alors attendez, ça s'appelle le temps universel coordonné qu'il faut absolument garder à l'intérieur de son corps, parce qu'en effet, en 24 heures de temps coordonné, en fait, on voit 16 fois le ciel, le soleil se lever et se coucher sur la planète au loin.
Ça, c'est donc fascinant, ça, c'est dans ce roman-là.
C'est fascinant, mais c'est pas fascinant de la même manière que peut l'être une fiction spatiale, en effet, comme vous le disiez, grandiloquente. C'est pas le roman de la conquête, en fait. C'est le roman du surplace à l'intérieur de la boîte. Et c'est ni le roman de l'aller, ni le roman du retour. Et de ce point de vue, c'est assez fascinant, oui.
Parce qu'on entend dans ce que dit Lucille, hein, c'est pas un roman de science-fiction, c'est pas non plus un roman d'aventure, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de problème technique, par exemple, hein, ils risquent pas tous de mourir. Donc à quel genre appartient ce roman ?
Ben moi j'ai été très agréablement surpris, parce que comme Lucille Comeau, moi j'avais beaucoup d'appréhension, je me suis dit une fiction spatiale. Moi j'avais le souvenir de Nous Trois, des Schnauz, qui faisait justement, qui avait beaucoup de recul et de mélancolie sur l'aventure spatiale. Et le début du roman, je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnification, et je trouvais qu'il y avait un ton effectivement grandiloquent, et qui s'estompe progressivement pour laisser place, en fait, à ce que Lucille Comeau évoquait très bien, c'est-à-dire une fable sur le sensible, c'est-à-dire plus ils s'éloignent de la Terre, plus ils ont cette espèce de mélancolie de la matière, du socle, et c'est un roman qui réfléchit, en fait, dans une sorte de, pas tellement de récit, mais de méditation métaphysique sur, à la fois le progrès, ce que permet le progrès, et puis aussi, inversement, sur le caractère de décrépitude qu'ils éprouvent eux-mêmes à rester dans l'espace, dans le caractère d'anéantissement de la Terre. Il y a des passages absolument sublimes sur un typhon qui naît aux Philippines et sur un des cosmonautes qui a eu une expérience avec d'hébergement chez des pêcheurs philippins. Et c'est un roman à la fois sur le vertige, sur l'apesanteur et sur le changement d'échelle, qui me fait penser, moi, plutôt à un vieux genre, un genre en tout cas ancien, qui est celui de la pastorale, une sorte de pastorale écologique, mais écologique, je dirais, sans tomber dans les travers d'une sorte d'écho poétique où on regretterait un petit peu la terre qui serait détruite. C'est vraiment amené très finement avec, ils sont six, hein, on l'a peut-être pas précisé, il y a cosmonautes de différentes nationalités, comme c'est souvent le cas dans ces stations spatiales. Ils vont à l'unir bientôt, hein, on les quitte sur ce pont, sur cette séquence-là. Et pour moi, il y a un des plus beaux passages que j'ai lus, franchement, dans mon expérience de lecteur, c'est raconter l'existence de l'univers en une semaine. Et ça dure à peu près une dizaine de pages, et c'est absolument rien que pour ce passage, c'est absolument éblouissant. Faut vraiment lire la manière dont cette autrice se saisit de la matière sans jamais faire l'impasse à la fois sur les clichés qu'elle remet en cause et à la fois sur véritablement un potentiel métaphysique. C'est vraiment un grand livre.
Mais est-ce que vous diriez, Lucille, que l'émerveillement, la contemplation est pour l'autrice un sujet aussi politique, s'il n'est pas juste dans la poétique que vous décriviez ?
C'est ça qui est en effet assez intéressant, c'est qu'on peut craindre l'avènement assez rapide dans la fiction d'une réflexion sur la question écologique, puisque quand aujourd'hui, puisque ça se situe aujourd'hui, il s'agit de regarder la planète Terre de loin, évidemment, on pense tout de suite aux phénomènes massifs de changement climatique et à ce qu'eux en perçoivent, et à quel point la fable spatiale peut devenir une espèce de fable morale ou politique sur l'état de notre monde. Or, ça arrive très doucement, ça arrive, hein, l'histoire du typhon, en effet, elle est soutenue par cette ambition-là, de la même manière que ce que vous décriviez tout à l'heure, qui est une espèce de, en effet, un peu, d'ailleurs je l'avais complètement refoulé parce que ça me file le vertige, de description en une semaine de tout ce qui existe dans notre monde. Donc ça arrive, mais ça reste assez finement amené amener. Et c'est là que moi, j'ai quand même un peu de
résistance.
De résistance, parfois. C'est qu'il y a une forme de joliesse, quand même, dans l'écriture de Samantha Harvey.
Vous voulez dire qu'elle écrit pour faire jolie ?
Alors, moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le retour un peu systématique et je trouve de plus en plus décousu du reste des descriptions de la planète Terre, qui sont des tableaux de plus en plus assumés comme tels. Moi, ça me faisait penser à l'ekphrasis, vous savez, cette figure rhétorique qui vient de l'Antiquité, où d'un seul coup, la narration s'arrête, donc c'est dans l'Énéide, par exemple, et on décrit le bouclier d'Achille, ou n'importe quelle œuvre d'art ou œuvre d'artisanat. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe avec la planète, c'est-à-dire que parfois, on s'arrête. Et il y a ces grands morceaux très poétiques, on sent presque qu'ils ont été écrits un peu à part, de descriptions par la matière, par la couleur, il y a un grand travail de vocabulaire sur la couleur, de la planète Terre de loin. Et on sent que ce qu'elle veut faire, c'est décrire la Terre comme un joyau, un peu comme un bijou. Et là, il y a quelque chose qui, moi, je sais pas, il y a un truc qui me gêne un peu, ça me sort un peu de l'histoire, alors que je trouve à nouveau que quand on est vraiment au ras de l'expérience spatiale avec ces personnages qui sont très intéressants et qu'elle réussit à camper, parce qu'on n'a pas dit, mais c'est un tout petit livre. Hein.
Oui, c'est un roman à plusieurs voix. Hein,
voilà, il y a quand même 6 personnages qui sont très différents, ils viennent de pays différents, ils n'ont pas le même âge, pas la même expérience, ils n'ont pas du tout la même fonction à l'intérieur de la station spatiale. Et ils sont croqués, bon il y en a un ou deux qui sont un peu avantagés disons dans la description que par rapport aux autres, ils sont croqués en très peu de temps et c'est ça qui m'intéresse. Notamment moi celle qui m'intéresse le plus c'est le personnage de la japonaise qui s'appelle Chie et donc qui apprend la mort de sa mère tout au début du roman et qui fait sa journée, qui conduit sa journée dans la station spatiale en ayant cette idée. Alors là pour le coup le temps ça devient complètement dingue, cette idée que sa mère est morte mais que la Terre continue de tourner à toute vitesse et que peut-être elle va être incinérée, que vont devenir ses cendres etc. et qu'elle, elle n'est pas là. C'est vraiment là que c'est très beau. Et il faut cet accrochage de la fiction à la matérialité des lieux, à la matérialité de leur vie. Sinon, moi ça m'intéresse pas beaucoup.
Je voulais revenir sur cette histoire de temps, c'est ce qui moi aussi m'a le plus intéressé. La mission spatiale dure 9 mois, mais le livre s'attache à une journée. Mais en une journée dans l'espace, on voit 16 aurores et 16 crépuscules. Donc c'est une sensation du temps comme ça accélérée. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça en lisant ? Est-ce qu'on sent ce rapport très particulier au temps qu'elle met en place ?
Oui, c'est vraiment une expérience sensible qui, dans les premiers chapitres, se met en place. Mais bon, ça ne nous émeut pas plus que ça. Et puis au fur et à mesure qu'on entre effectivement dans la composition du roman, on voit que cette journée, il y a des effets d'accélération. Et pour moi, c'est vraiment un roman du vertige parce qu'à un moment donné, on se sent totalement pris dans cette espèce de vide qui s'accélère, d'accélération du vide. Et moi, ça me faisait beaucoup penser, on a parlé de cinéma tout à l'heure avec Lucille Comeau, ça me faisait beaucoup penser à cette scène très impressionnante dans Mission to Mars de Brian De Palma au début des années 2000 quand Woody perd, un des cosmonautes perd sur la planète, enfin au moment où ils vont atterrir sur Mars, je ne sais pas comment on peut dire.
À Marsir,
je ne sais pas. Et il perd totalement le contact avec ses camarades et il flotte dans l'espace. Et la grande performance, puisque pour moi c'est quand même une performance, on est proche quand même de la performance artistique, c'est de ressentir soi-même quand on est chez soi ce sentiment de vertige et c'est pas rien. Raconter une journée comme ça, ça a déjà été fait, c'est vraiment une forme qui a été explorée tout au long du XXe siècle, que ce soit avec Joyce ou avec Michel Butor dans Degré qui racontait tous les états d'une journée, mais Butor il avait pu expérimenter tout ce qui relevait du roman spatial, mais pas à ce point-là. Là je trouve que en plus, ce que doivent entendre nos auditeurs et que vous rappeliez très justement, c'est que c'est un tout petit livre qui a de très très grandes ambitions. 200 pages, c'est vraiment un tour de force.
Et sur le style, sur la phrase de Samantha Harvey, est-ce qu'elle arrive à rendre cette apesanteur des corps des personnages par exemple ?
Oui, bah d'ailleurs, c'est tout à fait le cas si on réfléchit à la manière dont elle décrit le temps qui passe. Parce que moi, j'avais absolument pas vraiment en tête cette histoire de une journée. C'est le problème avec les maths qui est probablement lié avec les...
avec l'espace.
Problème avec l'espace. C'est qu'une journée 16 aurores, je me suis dit bon, ok. Et puis en fait, j'ai réalisé à la fin du livre qu'en effet, on les avait vus prendre 3 repas, se lever puis se coucher, etc. Mais en fait, on oublie à la lecture complètement cette notion du temps. C'est-à-dire qu'en effet, la journée comme dispositif bien pratique pour la fiction, pour le coup, c'est assez balayé par l'écriture de Samantha Harvey. En fait, son écriture, elle est extrêmement dense. Elle est très très efficace. Donc, en un chapitre, elle peut saisir tout ce qui est le paradoxe de cette expérience. C'est-à-dire qu'à la fois, on est très seul et en même temps, on est tout le temps en collectivité parce qu'on est tout le temps avec quelqu'un d'autre dans une pièce qui n'existe pas vraiment. À la fois, on est complètement enfermé dans des tout petits espaces et contraints et en même temps, dès qu'on regarde par n'importe quel hublot, on a l'étendue et l'infini devant soi. Donc, tout ça, elle arrive à le tenir dans son écriture, qui, encore une fois, est très belle. Moi, je la trouve un peu sage. En fait, elle est professeure, par ailleurs, cette écrivaine de création littéraire en Angleterre. Et je trouve qu'on sent quelque chose. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai lu sur la quatrième de couverture. Mais on sent quelque chose d'un peu, je dirais pas laborieux, parce que là, pour le coup, ce serait méchant. Mais on sent le travail de synthèse qu'elle s'efforce
de bonne
faire.
Élève, presque.
Oui, voilà. Oui, de bonne élève. Oui, oui. Et de fait, c'est une très bonne élève. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu qui me laisse à distance. Moi, je trouve la fin pas forcément très réussie, par exemple. Enfin, il y a quelques, voilà.
Il y a toujours un paradoxe dans ces voyages spatiaux, c'est le fait d'aller très loin, mais on a l'impression qu'ils vont très loin pour quand même regarder la Terre. Vous l'avez dit, alors bien sûr qu'il y a toute cette notion de comment on regarde la Terre depuis l'espace, mais il y a aussi beaucoup de réflexions très humaines, très, j'allais dire presque bassement humaines. Ces réflexions sur la condition de chacun, vous, ça vous a séduit, Joanne Ferber?
Oui, moi je trouve que je pensais que comme je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment un récit non plus. On a parlé d'un récit, mais c'est plutôt une méditation métaphysique, et vraiment au sens étymologique du terme, c'est-à-dire être au-dessus de la nature, être dans l'espace et avoir effectivement une réflexion sur l'humanité qui est en fait se servir de l'espace comme de distance critique, c'est-à-dire les kilomètres servent, plus on franchit un kilomètre loin de la Terre, plus on a une idée critique sur l'humanité elle-même. Et je trouve que sur l'humanité même, le degré de réflexion n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est la manière dont finalement quelques références sont mobilisées pour interroger le rapport des mots aux choses. Il y a un très beau passage au début sur les Ménines de Velázquez, sur la carte postale des Ménines de Velázquez et sur ces jeux de regard. On se souvient tous que les Ménines de Velázquez, c'est le début des mots et des choses de Foucault sur la mort de, qui se conclura sur la mort de l'homme. Et je trouve que la manière dont c'est glissé, notamment à la fin, les Ménines reviennent et un des cosmonautes dit, tout le monde regarde, sauf le chien, qui est en fait le sujet principal et qui a les yeux fermés. Et j'ai trouvé que dans cette manière de suggérer le rapport aux mots, aux choses, à la disparition de l'homme et finalement à une qualité sensible du monde, c'était beaucoup plus fin que les quelques maximes qui étaient disséminées sur « Ah, l'humanité !» point d'exclamation.
Bien, ça me paraît très clair. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à Orbital de Samantha Harvey qui a paru chez Flammarion et c'est Claro qui assure la traduction française. Et pour ce deuxième roman de notre débat critique, nous voilà dans un espace-temps indéterminé. Alors non plus dans l'espace intersidéral, même si les extraterrestres peuvent s'inviter à la fête, mais au cœur d'une révolution féministe, je ne sais pas si c'est le bon mot, vous nous direz, qui ressemble au XVIIIe siècle, mais en réalité pas vraiment. Alors le Britannique Adam Sirwell nous invite dans ce troisième roman à un tourbillon de fantaisie anachronique. Le futur est difficile à définir, tant l'auteur semble avoir créé un genre en soi, la preuve en lecture.
Tout commença avec l'écriture. Un soir, un pamphlet s'était retrouvé entre les mains d'une femme à Paris. Le texte imprimé sur cette brochure était baveux. Sous le titre était représentée une femme à demi nue dans un lit, une image célèbre de celle qui lisait à présent le dit pamphlet. Ni la copie, ni l'original ne lui ressemblaient le moins du monde. Un pamphlet peut être très court et insaisissable, comme un morceau de code. Elle le regarda un long moment, essayant de le comprendre, pendant si longtemps, en fait, qu'elle était maintenant en retard pour une fête. Elle ne savait pas qui était à l'origine de ce pamphlet, de son illustration et de sa publication. Il avait été produit de l'autre côté de la frontière. C'était une de ces séries pornographiques émergentes, imprimées dans des villes d'avant-garde, à Londres, Anvers, Genève. Ce semblait être un projet international, quelque chose du genre Zamistat en 24-24. Elle jeta le pamphlet, mais continua ensuite à l'observer dans la poubelle, au milieu des journaux et des magazines, des factures, des chèques annulés et des messages. Impossible de détourner le regard. Les siècles se succèdent, mais tout arrive dans l'instant présent. Puis elle en vint à une nouvelle conclusion, elle récupéra le pamphlet et sortit dans la nuit.
Je vous vois tous les deux déjà avec un grand sourire. J'ai hâte de ce débat qui se prépare. Johan, qu'avez-vous pensé de cet étrange objet littéraire?
Alors, le futur dont vous avez, Marie, tout à l'heure salué le titre absolument formidable.
Magnifique titre.
Quand même, déjà, rien que ce titre, c'est un monument en soi. Raconte donc l'histoire de Céline qui a 19 ans au début de l'histoire et qui vit, comme vous l'avez dit tout de suite et comme on l'a entendu là, dans un temps totalement anachronique, indéterminé et qui, pour moi, s'est vraiment imposé comme une triple découverte. C'est vraiment une fable politique qui pose énormément de questions. Une fable également sur le temps. Je crois qu'il y a un rapport au temps qui est posé. Et puis, moi j'appellerais ce livre littérature, parce que ça pose un nombre de questions absolument étourdissants. Ça donne le vertige sur la place de la littérature dans la société, avec une finesse et un sens de l'ironie assez voltairien, que même Voltaire ne maîtrise pas avec autant de maestria.
Eh bien, Lucille, un premier regard.
Ouais. Bah, étrange. Oui, alors, moi, je l'ai lu deux fois, ce livre. Et déjà, j'ai une perception un peu différente, potentiellement à cause de cette double lecture. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris. C'est-à-dire que, vraiment, les premiers chapitres, j'ai essayé de me repérer. En plus, il y a une profusion de personnages énormes. Ça se situe sur plusieurs générations, il faut le dire. Hein. Céline, on la voit très jeune, et puis on la voit beaucoup, beaucoup moins jeune à la fin.
Rien compris, mais désagréable, ou rien compris,
non,
mais ça va?
Non, justement. Alors, rien compris, ça va. Rien compris, à la fois, c'est ça qui fait l'intérêt du livre, et c'est ça qui potentiellement fait qu'on lâche. Et à l'inverse, ma deuxième lecture, alors je me repérais davantage dans le roman. Alors, j'ai trouvé ça moins intéressant, mais peut-être plus facile à théoriser, quoi. Alors, disons que peut-être pour que les lecteurs se rendent compte un peu de
l'objet,
de l'objet. En fait, c'est pas tant anachronique, c'est-à-dire il s'agit pas tant d'apporter des éléments d'un temps autre dans un temps donné. C'est plutôt achronique parce qu'il y a vraiment pas de repères du tout. Il y a un mélange de choses qu'on, quand même, de référentiels, disons, de systèmes qu'on reconnaît. Donc, il y a principalement, en effet, l'ancien régime français.
Personnages historiques qui arrivent.
Alors, c'est pas exactement eux, mais oui. Alors, il y a Beaumarchais. Bon, c'est pas exactement Beaumarchais, mais c'est vrai qu'il fait du théâtre. Il y a Antoinette, qui est une sorte de Marie-Antoinette, qui est en tout cas une reine et qui joue aussi au théâtre. Il y a Toussaint Louverture. Il y a la conquête de l'Amérique à l'époque par les Anglais et la révolte qui se poursuit. Il y a Napoléon à la fin. Donc, en effet, il y a une sorte, disons, de système ancien régime français qui est à peu près stable. Là-dedans, il y a, moi, je trouve quelque chose très... années 20, Great Gatsby, enfin la littérature américaine début de siècle, et aussi un référentiel très Hollywood. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un producteur qui est un producteur de théâtre, mais qui pourrait très bien être un producteur de cinéma, qui est un peu à l'avant-garde de tous les mouvements artistiques. On sent qu'il y a des moyens pour le spectacle, que le spectacle est quelque chose de très important. Donc, il y a quelque chose de ce référentiel-là. Et puis, il y a quelque chose de très contemporain. Moi, j'ai pensé à Bret Easton Ellis. C'est-à-dire que la manière dont les personnages se déplacent dans la vie s'appelle Baby, cherche ce que c'est, le cool, c'est très important, le cool. Il y a quelque chose des années 80-90 de la littérature américaine, aussi dans la dureté des rapports, le rapport entre les hommes et les femmes. Et puis cette manière de sortir des personnages du chapeau qui se ressemblent quand même beaucoup. C'est-à-dire que Céline, elle se retrouve au centre d'une galerie de femmes, principalement, qui, moi, alors à la fin, pardon, je tape sur mon micro, je savais plus du tout
qui était qui.
Non, plus du tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, on sait plus quel âge elles ont, quelle génération il s'agit. De la même manière que leurs histoires amoureuses sont extrêmement intriquées, parfois elles couchent avec l'un, parfois avec l'autre, elles se piquent les amants les unes des autres. Donc vraiment, je pense qu'il faut lâcher l'affaire de la narration complète linéaire, parce que ça n'a pas d'intérêt. Le problème étant que c'est quand même un roman, que pour le coup il est assez épais, et que moi je trouve... qu'il y a une ambition, disons, méta-littéraire, donc qui serait celle du traité, vous le disiez, Johan, qui se heurte à l'ambition romanesque. Je pense qu'il a un peu voulu faire les deux et que ça ne marche pas totalement.
Johan, est-ce que vous diriez, j'ai annoncé ça en introduction, révolution féministe, c'est juste concernant ce roman? Vous parliez des femmes, Lucille, très présentes. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue?
Oui, c'est-à-dire il y a une sorte de révolution féministe. Et moi, je rejoins totalement Lucille sur ce qu'elle vient de dire, savoir c'est plus un traité.
Mais un traité
roman.
De quoi alors? Qui défendrait quoi?
C'est un traité à la fois sur le temps. Sur le temps, c'est-à-dire on a parlé du temps, mais c'est en fait... à un moment, le mot est lâché et ça m'a éclairé. C'est le multivers. C'est le premier roman en multivers avec des romans avec des effets spéciaux, un roman en costume aussi, même si le costume, ça peut être effectivement The Great Gatsby. Et puis, ce roman sur le multivers fait penser aussi à un roman très 18e siècle, inspiré de Leibniz. Leibniz, ce philosophe, qui avait écrit à la fin de sa Théodicée, des essais de Théodicée, à la fable de Théodore, où il allait d'appartement en appartement, où tout avait lieu en même temps. Et j'ai l'impression que c'est un peu une illustration théorique de ce que Deleuze appelait dans son livre sur le pli en 88 les mondes compossibles de Leibniz qui ont tous lieu en même temps. Et pour répondre à votre question, ces mondes compossibles où tout a lieu en même temps fait que d'un côté on a l'impression qu'il y a une révolution féministe. Mais je dis bien, on a l'impression qu'il y a une révolution féministe parce que elles vont se battre effectivement pour essayer d'obtenir une émancipation. Mais quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que, en fait, là, on voit tout de suite que les femmes sont par ailleurs condamnées. On dit, certains déplorent, bon, mais maintenant, il y a que des femmes qui écrivent, et les femmes qui écrivent, bon, bah, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Eh ben, elles veulent réclamer un statut. Bon. Et en fait, tout est miné par le contraire de tout. Et révolution féministe, oui, mais en fait, est-ce que c'est ironique? Je ne pense pas. Je pense que c'est toujours soumis, tout est soumis à son contraire, ce qui donne un objet à la fois extrêmement séduisant et extrêmement bloquant. Quand même. Et je pense que ça en fait la richesse. Par exemple, sur la littérature, impossible de réfléchir à la littérature, maintenant c'est ce que je me dis, contemporaine, sans avoir lu Futur, parce qu'il y a tellement de pistes et il y a surtout énormément d'impasses. Et c'est ça qui est stimulant.
Et est-ce que c'est un livre drôle? Est-ce que vous avez ri en le lisant?
Ah oui, alors c'est ça qui sauve, entre guillemets, le livre. Ça pourrait être assez vain, là, je vous écoutais. En fait, ça pourrait être une espèce de traité totalement vide, parce qu'en effet, ça, on a la forme, c'est ça au final, et on n'en tire rien en termes de substance. C'est-à-dire qu'en effet, tout ce qui est révolutionnaire peut être réactionnaire, ça peut se retourner en deux secondes. La fameuse Céline, honnêtement, on ne comprend pas exactement ce qu'elle veut faire. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut tout changer, qu'elle veut changer les langages, qu'elle veut changer les écritures, les systèmes, mais in fine, il ne se passe collectivement rien pour les personnages. Donc, traité un peu vide. Et ce qui reste peut-être, moi je trouve, le plus, et qui est sans doute le génie, et je pense que là, la traduction de Nicolas Richard est vraiment formidable, parce que c'est pas facile à rendre, c'est en effet l'humour. Et ça tient vraiment énormément au dialogue. Un contraste entre des blocs de textes qui sont à la troisième personne, qui sont une espèce de récit assez classique, même si, bon, comme d'habitude, hein, y a des espèces de motifs extrêmement étranges dedans, et des dialogues qui, d'un seul coup, avec des ruptures de ton hyper fortes, de la vulgarité, des espèces de sauts de registre complètement fou, c'est-à-dire que même Washington, quand il se retrouve à parler, à discuter, interprété par des Indiens à des chefs de village, il peut se retrouver à dire des trucs complètement absurdes sur lui-même et complètement déconnecté de ce qu'on imagine être la langue de Washington. Donc là, c'est très drôle. Mais je pense qu'il y a un problème d'échelle, en fait, de ce livre. Je pense que il est étrange parce que, précisément, il est trop gros pour
ce qu'il voudrait aborder.
Et en même temps, il est rempli. Donc, c'est difficile de... Non, mais c'est vrai, c'est hyper dur à décrire, ce truc.
Yoann, il vous reste quelques secondes. Un mot sur le titre. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, le futur?
Ben, le futur, c'est ce qui est dit dans le livre. C'est ce qui est extraterrestre et incommunicable. Et je crois que ça définit parfaitement cet objet. Futur, extraterrestre, incommunicable. Mais que vraiment, je conseille de lire parce que c'est vraiment un apax dans l'histoire de la littérature.
Aïe, ça ne ressemble à rien d'autre.
Ah non,
je vois pas.
Et vous le reconnaîtrez facilement en librairie, hein, parce que la couverture, c'est quoi? C'est Marie-Antoinette, je le vois de loin, là, dans les mains de Lucie.
Bah,
là,
c'est
une figure,
sorte de Marie-Antoinette qui,
voilà,
qui
avec
souffle une bulle de chewing-gum rose.
De chewing-gum rose,
en mode
voilà.
Sofia Coppola.
Ouais.
Le futur, traduit en français par Nicolas Richard, apparu aux éditions de l'Olivier. Merci à tous les deux. Et vous retrouverez toutes les références de ces deux romans et le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture sur le site franceculture.fr.